Lupin les considéra tous deux d'un œil attendri. Comme on est récompensé de faire le bien. Touchant spectacle. Heureux père, heureuse fille. Et dire que ce bonheur, c'est en œuvre, Lupin. Ces êtres te béniront plus tard. Ton nom sera pieusement transmis à leurs petits-enfants. Ah, la famille, la famille. Il se dirigea vers la fenêtre. Ce bon Ganimard est-il toujours là? Il aimerait tant assister à ces charmantes effusions. Mais non, il n'est plus là. Plus personne. Ni lui, ni les autres. Diable, la situation devient grave. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'ils fussent déjà sous la porte cochère. Chez le concierge, peut-être. Ou même dans l'escalier. Monsieur Gerbois laissa échapper un mouvement. Maintenant que sa fille lui était rendue, le sentiment de la réalité lui revenait. L'arrestation de son adversaire, c'était pour lui un demi-million. Instinctivement, il fit un pas. Comme par hasard, Lupin se trouva sur son chemin. « Où allez-vous, monsieur Gerbois ?»« Me défendre contre eux ?»« Mille fois aimable. Ne vous dérangez pas. D'ailleurs, je vous jure qu'ils sont plus embarrassés que moi. » Et il continua en réfléchissant. « Au fond, que savent-ils? Que vous êtes ici, et peut-être que mademoiselle Gerbois y est également, car ils ont dû la voir arriver avec une dame inconnue. Mais moi, ils ne s'en doutent pas. Comment me serais-je introduit dans une maison qu'ils ont fouillée ce matin de la cave au grenier? Non, selon toute probabilité, ils m'attendent pour me saisir au vol. Pauvre chérie. À moins qu'ils ne devinent que la dame inconnue est envoyée par moi et qu'ils ne la supposent chargée de procéder à l'échange. Auquel cas, ils s'apprêtent à l'arrêter à son départ. Un coup de timbre retentit. D'un geste brusque, Lupin immobilisa M. Gerbois et la voix sèche, impérieuse, « Halte-là, monsieur. Pensez à votre fille et soyez raisonnable, sinon... Quant à vous, maître de Tinan, j'ai votre parole. » M. Gerbois fut cloué sur place. L'avocat ne bougea pas. Sans la moindre hâte, Lupin prit son chapeau. Un peu de poussière le maculait. Il le brossa du revers de sa manche. « Mon cher maître, si jamais vous avez besoin de moi, mes meilleurs vœux, mademoiselle Suzanne, et toutes mes amitiés à M. Philippe. » Il tira de sa poche une lourde montre à double boîtier d'or. « Monsieur Gerbois, il est 3h42. À 3h46, je vous autorise à sortir de ce salon. Pas une minute plus tôt que 3h46, n'est-ce pas ?»« Mais ils vont entrer de force !» ne put s'empêcher de dire maître de Tinan. « Et la loi que vous oubliez, mon cher maître ?» Jamais Ganimard n'oserait violer la demeure d'un citoyen français. Nous aurions le temps de faire un excellent bridge. Mais, pardonnez-moi, vous semblez un peu émus tous les trois, et je ne voudrais pas abuser. » Il déposa sa montre sur la table, ouvrit la porte du salon et s'adressant à la dame blonde, « Vous êtes prête, chère amie ?» Il s'effaça devant elle, adressa un dernier salut très respectueux à mademoiselle Gerbois, sortit, et referma la porte sur lui. Et on l'entendit qui disait dans le vestibule à haute voix
« Bonjour Ganimard, comment ça va-t-il? Rappelez-moi au bon souvenir de Madame Ganimard. Un séjour, j'irai lui demander à déjeuner. Adieu Ganimard !»
« 3h45 !» balbutia Monsieur Gerbois.
Après quelques secondes, résolument, il passa dans le vestibule. Lupin et la dame blonde n'y étaient plus.
« Père, il ne faut pas! Attends !»
s'écria Suzanne.
« Attendre? Tu es folle! Déménagement avec ce gredin et le demi-million !»
Il ouvrit. Ganimard se rua.
« Cette dame! Où est-elle? Et Lupin ?»«
Il était là! Il est là !»
Ganimard poussa un cri de triomphe.
Nous le tenons. La maison est cernée.
Maître de Tinan objecta.
Mais l'escalier de service.
L'escalier de service aboutit à la cour. Et il n'y a qu'une issue, la grande porte. 10 hommes la gardent.
Mais il n'est pas entré par la grande porte. Il ne s'en ira pas par là.
Et par où donc?
Riposta Ganimard.
À travers les airs.
Il écarta un rideau. Un long couloir s'offrit qui conduisait à la cuisine. Ganimard le suivit en courant et constata que la porte de l'escalier de service était fermée à double tour. De la fenêtre, il appela l'un de ses agents.
« Personne ?»«
Personne !»«
Alors ils sont dans l'appartement. Ils sont cachés dans l'une des chambres. Il est matériellement impossible qu'ils se soient échappés. Ah, mon petit Lupin, tu t'es fichu de moi. Mais cette fois, c'est la revanche !»
À 7h du soir, Monsieur Dudouis, chef de la sûreté, étonné de n'avoir point de nouvelles, se présenta rue Clapeyron. Il interrogea les agents qui gardaient l'immeuble, puis monta chez Maître de Tinan, qui le mena dans sa chambre. Là, il aperçut un homme, ou plutôt deux jambes, qui s'agitaient sur le tapis, tandis que le torse auquel elles appartenaient était engagé dans les profondeurs de la cheminée.
« Ohé ! Ohé ! »
glapissait une voix étouffée. Et une voix plus lointaine qui venait de tout en haut répondait
« Ohé ! Ohé ! »
Monsieur Dudouis s'écria en riant
« Eh bien, Ganimard, qu'avez-vous donc à faire le fumiste ?»
L'inspecteur s'exhuma des entrailles de la cheminée, le visage noirci, les vêtements couverts de suie, les yeux brillants de fièvre. Il était méconnaissable.
« Je le cherche »
grogna-t-il.
« Qui ?»
Arsène Lupin ! Arsène Lupin et son ami !
Ah ça ! Mais vous imaginez-vous qu'il se cache dans les tuyaux de la cheminée ? »
Ganimard se releva, appliqua sur la manche de son supérieur 5 doigts couleur de charbon et, sourdement, rageusement,
« Où voulez-vous qu'il soit, chef ? Il faut bien qu'il soit quelque part ! Ce sont des êtres comme vous et moi, en chair et en os ! » Ces êtres-là ne s'en vont pas en fumée.
Non, mais ils s'en vont tout de même.
Par où ? Par où ? La maison est entourée. Il y a des agents sur le toit.
La maison voisine ?
Pas de communication avec elle.
Les appartements des autres étages ?
Je connais tous les locataires. Ils n'ont vu personne. Ils n'ont entendu personne.
Êtes-vous sûr de les connaître tous ?
Tous ! Le concierge répond d'eux. D'ailleurs, pour plus de précautions, j'ai posté un homme dans chacun de ces appartements. Il faut pourtant bien qu'on mette la main dessus. C'est ce que je dis, chef, c'est ce que je dis. Il le faut et ce sera, parce qu'ils sont ici tous deux. Ils ne peuvent pas ne pas y être. Soyez tranquille, chef. Si ce n'est pas ce soir, je les aurai demain. J'y coucherai.
De fait, il y coucha. Et le lendemain aussi. Et le surlendemain également. Et lorsque 3 jours entiers et 3 nuits se furent écoulés, non seulement il n'avait pas découvert l'insaisissable Lupin et sa non moins insaisissable compagne, mais il n'avait même pas relevé le plus petit indice qui lui permit d'établir la plus petite hypothèse. Et c'est pourquoi son opinion de la première heure ne variait pas. Du moment qu'il n'y a aucune trace de leur fuite, c'est qu'ils sont là. Peut-être, au fond de sa conscience, était-il moins convaincu. Mais il ne voulait pas se l'avouer. Non, 1000 fois non. Un homme et une femme ne s'évanouissent pas ainsi que les mauvais génies des contes d'enfants. Et sans perdre courage, il continuait ses fouilles et ses investigations comme s'il avait espéré les découvrir dissimulé en quelque retraite impénétrable, incorporée aux pierres de la maison.